Sous les noms du Saint-Esprit, par le Père Philippe à Rimont, le 23 mai 1988.
Comme le cours Questions et réponses sur le point de vue de la femme et de l'homme est terminé jusqu'à nouvel ordre. Avant de passer sur un autre sujet, on a commencé hier les dons du Saint-Esprit, on continue les dons du Saint-Esprit. C'est une question qui m'a été posée. Alors je réponds. Je vous disais donc hier, le don fondamental, le don de crainte, lié à la béatitude des pauvres. Il faut tout le temps y revenir. C'est le don fondamental de toute notre vie. Et tous les renouveaux dans l'Église se font par la pauvreté. Pas d'autre moyen. Autrement, c'est pas un renouveau. Renouveau se fait toujours par le fondement. Et si on va pas jusqu'au fondement, c'est des choses qui se rajoutent. Et les choses qui se rajoutent, ça va pas. Alors il faut toujours saisir le fondement de l'édifice chrétien, le Christ crucifié dans la béatitude des pauvres. La béatitude des pauvres est vécue à la croix. Pauvreté joyeuse de Bethléem, ce n'est pas le renouveau. Pauvreté douloureuse de la croix, c'est le renouveau. Ça va très loin. Toutes les pauvretés de la croix. Et si on voulait vraiment comprendre la béatitude des pauvres, il faut regarder Jésus crucifié. Vous voyez, l'évangile de Saint Jean ne nous parle pas des béatitudes. Il nous montre Jésus vivant des béatitudes. Et c'est beaucoup plus grand. Jésus vivant des béatitudes. Et Jésus vivant des béatitudes à la croix et à travers toute sa vie. Nous l'avons déjà fait, si vous vous souvenez du moins certain, comment dans l'Évangile on retrouve Jésus vivant des béatitudes évangéliques. Alors la béatitude des pauvres, c'est l'âme qui est rendue pauvre par l'amour divin. C'est une béatitude typiquement chrétienne. Elle n'existe pas encore explicitement dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas cette pauvreté. Et c'est pour ça qu'elle est si déroutante. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas su reconnaître le Messie? Parce qu'il est venu dans la pauvreté. Il serait venu dans la gloire et dans le triomphe, on l'aurait accepté. Tandis qu'il n'est pas, il est venu dans la pauvreté. Calvin, au fond, retourne à l'Ancien Testament. Et met entre parenthèses la béatitude des pauvres. Très curieux. Je crois que toutes les séparations à l'égard de Rome, c'est parce qu'on n'accepte pas la béatitude des pauvres. C'est très radical. C'est très foncier. Ce serait très beau de voir ça, du reste, dans l'histoire de l'Église. Parce que c'est toujours le retour au paradis terrestre, le messianisme temporel. Et la béatitude des pauvres, mais une rupture radicale à l'égard de ce retour au paradis terrestre. Marie, c'est la femme pauvre. La virginité enveloppée de la pauvreté. C'est la garantie de la vérité, du véritable esprit de virginité. Saint Augustin l'a très bien saisi, qu'il pouvait y avoir un esprit de virginité orgueilleux, pharisaïque, Et cet esprit de virginité pharisaïque et orgueilleux n'est pas chrétien. Il faut comprendre que c'est à travers la croix et dans la croix que nous découvrons ce qu'est l'esprit de virginité. Vous savez, le pharisaïsme, c'est terrible. Ça reprend toujours tout. Et alors, ce qui supprime le pharisaïsme radicalement, c'est la béatitude des pauvres, le don de crainte. Et le don de crainte qui doit aller jusqu'au bout de ses exigences, c'est-à-dire jusqu'à la croix. L'éthique chrétienne, la pauvreté, typiquement éthique chrétienne, oui, comme l'Afrique a de la peine de l'accepter. Faut le reconnaître. On a une peine énorme d'accepter. On voudrait bien un Messie qui soit triomphant. Un Messie qui nous donne la gloire. Ça, tout le monde serait d'accord. Mais au contraire, le point de vue de la pauvreté, ça nous rappe. Quitte ton pays. C'est difficile. Très difficile. Que ça colle à notre peau. Quitte ton pays. Hein, c'est comme ça que ça commence. Et dans l'Ancien Testament, on ne l'a pas vécu. Vous voyez comment Abraham l'a vécu. C'est une des choses qu'Abraham a eu plus de peine de vivre. Il a gardé la foi, mais il n'est pas entré dans la pauvreté. Et je crois que la première alliance n'est pas entrée dans la pauvreté. On a réclamé un roi. Pour faire comme les autres pays. Comme les autres pays, ça louche. Dès qu'on louche, on ne quitte pas son pays. Et si on ne quitte pas son pays, on ne peut pas suivre Jésus. Ça va très loin, ça, vous verrez. Quand on essaie de comprendre, quand on essaie de vivre, ça va tellement loin. Quitter son pays, voyez, ça peut être comme Nicolas de Flux. Nicolas de Flux, il est venu habiter tout proche de sa ferme. Il a quitté son pays. Il a quitté sa ferme. Il a quitté ses enfants. Il a quitté son épouse. Il n'est jamais retourné. Jamais retourné. Et il était à un, même pas 500 mètres. Vous voyez ce que c'est? C'est extraordinaire. Pour la Suisse, il fallait ça. Parce que les Suisses ont toujours beaucoup de peine de quitter leur pays. On le sait bien. Même quand c'est tout proche. C'est quand même pas son pays. Quitte ton pays. C'est très extraordinaire, ça. Si on le regarde bien, Nicolas de Flux, c'est un très grand bonhomme. Hein. Comme mystique, et je dirais comme pauvreté. Lui-même avait compris la pauvreté pour aller voir les mystiques rhénans. Il s'est mis en route. Et sur la route, l'esprit a dit, retourne. Il s'est installé quand on va au Ranf. C'est un voyage merveilleux, c'est dommage, c'est un peu loin. Autrement, tous les novices devraient aller au Ranf. Alors il comprendrait ce que c'est que quitter son pays. S'installer tout proche et ne jamais. Il n'a jamais demandé de permission au Saint-Esprit pour retourner dans son pays. Vous voyez, ça c'est l'épreuve dans le très grand sens. Et c'est merveilleux. Ça c'est d'être chrétien. D'aller jusque-là. C'est radical. Parce qu'encore une fois, notre pays, ça nous tient à la peau. Notre famille, notre pays, tout ce qui nous connaît naturel. Vous quittez tout ça. Tant que vous ne l'avez pas quitté, il faut quitter Marseille, c'est pas commode. Ça nous tient, la Bretagne. Ça, c'est la béatitude des pauvres. J'insiste beaucoup, parce que je crois que le renouveau ne peut être vrai que s'il y a la béatitude des pauvres. Autrement, le renouveau va s'atténir. Comme on dit, va s'embourgeoiser. Et quand le renouveau s'embourgeoise, c'est fichu. Complètement. C'est une flamme. Là, il faut se demander, pour nous, qu'est-ce que c'est que la pauvreté ? La pauvreté pour Saint-Jean, qu'est-ce que c'est ? Accepter Marie dans son mystère de compassion. La femme, la mère du crucifié, du rejeté. Et qui ne fait qu'un avec Jésus, rejeté. Vous voyez, la résurrection ne s'est pas faite publiquement. Les apologètes sont déroutés par la résurrection, parce que Jésus n'a apparu qu'à des amis. C'est idiot. S'il était apparu à Pilate, s'il était apparu au grand prêtre, tout aurait été gagné. S'il était descendu de la croix, tout aurait été gagné. Apparu devant n'importe qui, les pharisiens. Pas du tout. Uniquement aux amis. Pour les apologètes, incompréhensible. Parce que les amis, mais ils sont déjà acquis. Alors à quoi ça sert ? Ils sont très mauvais témoins. Et on souligne uniquement les amis. Ça ne peut se comprendre que dans la perspective de la béatitude des pauvres. Alors dans la perspective de la béatitude des pauvres, oui. C'est pas l'église triomphante. Autrement, c'est l'église triomphante, vous voyez. Nous sommes l'église du ressuscité qui n'apparaît qu'aux pauvres. Et qui n'apparaît qu'aux amis. C'est l'amour qui passe avant le triomphe. Tandis que dans l'apologétique, c'est le triomphe qui passe avant l'amour. C'est toujours comme ça. Vous savez, on est des apologètes, hein. Oh là là, c'est enraciné en nous, hein. On est né avec l'apologétique sur le berceau. On désire être triomphant, on désire retourner au paradis terrestre. Mais chacun d'entre nous, nous avons notre petit paradis terrestre. Et on a une peine énorme d'accepter d'être des pauvres, des étrangers à notre culture d'aujourd'hui. Vous savez, c'était une des réflexions, je me souviens, ce numéro sur le prêtre, cette revue, je crois qu'il n'a pas duré. C'était un fameux moment de la grande crise. Alors on demandait à un prêtre qu'est-ce qu'il avait comme impression d'être prêtre. Alors il disait cette chose. Nous avons l'impression que ce que nous avons reçu au séminaire est totalement étranger de la culture moderne. Donc c'est mauvais. En sortant du séminaire, nous sommes des étrangers de la culture moderne. Parce que la culture moderne est une culture de science et de technique. On n'a pas entretenu la science et la technique au séminaire. Donc on est des étrangers. Et par le fait même, c'est insupportable. On est des bâtards. Et vous voyez le mot. On est des bâtards. Vous voyez, il n'a pas accepté la béatitude. Accepter d'être des bâtards. On n'entre pas au séminaire pour entrer à l'école polytechnique. On entre au séminaire pour entrer dans le mystère de l'évangile. On entre dans la vie religieuse pour la vie évangélique. C'est très important pour nous, ça. On a une peine énorme d'être des étrangers. Béatitude des pauvres. J'insiste, hein. Tant de crainte. Ensuite, le don de force. Faut toujours les prendre par les dons, hein. Alors la crainte, la force, la piété. Le don de conseil. Le don de science. La science. Le don d'intelligence. Le don de sagesse. Ils sont bien sept, hein? Parce que on sait qu'ils sont sept que quand on les met un numéro en face. C'est vrai, c'est ça. Alors, parallèlement, découvrez vous-même. Soyez comme saint Augustin. Faites votre petit saint Augustin. Découvrez à travers les dons les fleurs. Vous avez pu commencer l'inverse. Ça m'est égal. Parce que c'est vice-versa. Alors on a dit ici les pauvres, les pacifiques, c'est les deux extrêmes, toute la gamme. Les vrais pacifiques sont des pauvres. Si on était pauvre, on serait toujours un homme de paix. Chaque fois que vous manquez de pauvreté, vous divisez. Opposer le plus de la paix pacifique, c'est les partisans politiques. Vous allez comprendre ce que c'est, hein, les partisans politiques. Juste inverse des pacifiques. Les faiseurs de paix, les artisans de paix, comme on aime de dire aujourd'hui. Et c'est beau. Mais pour être faiseur de paix, rayonner la paix, être artisan de paix, il faut la vivre au plus intime de nous. La béatitude pacifique n'est pas charismatique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est notre sainteté. Elle est une sainteté contemplative. C'est le fruit de la contemplation. C'est le fruit de la contemplation. Parce que pour être pacifique, il faut être celui qui a dépassé la gloire humaine. Tant que vous recherchez la gloire humaine, vous n'êtes pas un pacifique. Vous êtes un partisan de votre gloire. Quels sont aujourd'hui les hommes qui dépassent leur propre gloire? Alors ils sont des partisans. Vous voyez, la bête de la terre. C'est la grimace et pacifique. C'est le don de sagesse. Le don de sagesse, il est à la fois affectif et intellectuel. Vous voyez, c'est pour ça que le don le plus affectif, la crainte. Affectif et intellectuel. Le don le plus intellectuel, le don d'intelligence. C'est pour ça qu'on pourrait mettre comme ça. On peut les arranger de multiples façons. Et puis, les pacifiques au-dessus. C'est une synthèse merveilleuse. Une synthèse merveilleuse. Le don de sagesse a comme fruit la contemplation. Habitus contemplativus. C'est saint Thomas qui dit ça. Habitus contemplativus, la sagesse. La sagesse, ça nous stabilise dans la contemplation. Parce que c'est un habitus contemplatif. Lexis, la stabilité dans la contemplation. C'est beau. C'est pas simplement une lumière passagère. On est stabilisé dans la solitude, dans le silence. Parce que c'est ça, la contemplation. C'est la solitude et le silence intérieur. C'est la cellule intérieure. C'est l'ermitage intérieur. L'habitus contemplatif. L'habitus de sagesse. La contemplation, pour nous, au point de vue chrétien, c'est la contemplation du Christ crucifié. C'est ce regard de Jésus à l'égard du Père. C'est l'accomplissement plénier de la volonté du Père dans la plus grande lumière, dans une conscience parfaite qu'on accomplit la volonté du Père. Et que c'est la seule chose qu'on cherche, accomplir la volonté du Père. Donc, c'est le repos. C'est pour ça que je dis que c'est la stabilité. C'est le repos dans la maison du Père. Tant qu'on n'accomplit pas la volonté du Père jusqu'au bout, Jésus a accompli la volonté du Père en acceptant de boire le vinaigre qu'on lui présentait. La volonté du Père, c'est la seule chose qui pacifie. Et Jésus l'accomplit à travers le mystère de la croix. Et dans le mystère de la croix. La croix est pour le croyant sagesse. Sagesse divine, folie et scandale, aller jusqu'au bout de l'accomplissement de la volonté du Père, c'est toujours, pour notre raison humaine, une folie. Et pour notre sensibilité affective, un scandale. Toujours, on ne peut pas être autrement. C'est pour ça que c'est rude. Une montée, c'est un sommet. Un sommet qui appelle la vision béatifique. L'habitus de sagesse, le don de sagesse, fait fleurir en nous et au plus intime de nous l'exercice de l'agapé. De la charité. C'est ce regard intérieur vers le Père pour n'accepter que sa volonté. Son unique volonté. Pas de contemplation sans l'acceptation plénière de la volonté du Père. C'est ça le propre de la contemplation chrétienne. Oui, c'est une contemplation d'attente, la vocation chrétienne, puisqu'on est dans la foi. C'est pas une contemplation qui va jusqu'au bout de la contemplation, non. C'est pour ça qu'on peut pas se dire contemplatif. On dit qu'on aspire et qu'on désire la contemplation. Mais personne d'entre nous, même Marthe, ne se disait jamais contemplatif. C'est ce qu'il y avait de plus beau. Quelqu'un qui se dit contemplatif, on a envie de dire, mais quoi? Vous êtes dans la vision béatifique. La vision béatifique est seule la plénitude de la contemplation. Ici sur Terre, on est en attente de la vision béatifique. C'est un regard dans l'amour, un regard dans le désir. On regarde dans l'attente. On attend. Bouche bée, tout grande ouverte. On attend la vision béatifique. C'est une attente de la vision béatifique. Cette contemplation de sagesse. Dans la foi. Et dans dans une foi toute nue, dans une foi toute aimante, dans une foi toute simple. C'est assez extraordinaire, ça. Et c'est pour ça que c'est une contemplation qui nous est donnée à travers la croix. Parce que la croix est bien une attente. Quand on souffre, on sait ce que c'est que d'attendre. Au fond, on ne sait ce que c'est qu'attendre que quand on souffre. Autrement, on n'attend pas vraiment. On s'assied dans un fauteuil. Et on regarde des revues. C'est comme ça qu'on attend chez le dentiste. Et on attend quelquefois comme ça, même dans la vie religieuse. Il y a des revues, il y a des fauteuils. Là, on n'attend pas du tout. On s'installe. Celui qui attend ne s'installe pas. Il sait qu'il ne peut pas s'installer. Et tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de contemplation. La contemplation ne peut être dans cette tension du cri de soif. J'ai soif. Peut-être que dans ce cri de soif et dans ce désir ardent d'accomplir la volonté du Père. Autrement, on prend un petit siège, vous voyez, puis on croit qu'on est contemplatif parce qu'on est à l'écart du monde. C'est pas ça du tout. Ça, c'est une vie monastique qui peut être bouddhiste, qui peut être chrétienne, qui peut être colorée de diverses façons. C'est curieux, la nostalgie de la solitude. Parce qu'il y a une nostalgie de la solitude, qui n'est pas la contemplation chrétienne. La contemplation chrétienne est au-dessus de toute modalité humaine. Au-dessus de toute modalité humaine. La modalité de la solitude, la modalité du silence, la modalité du refuge. La contemplation chrétienne n'est pas non plus dans l'agitation. Non, non, pas du tout. Au-dessus de l'énervement, la contemplation chrétienne est tout intérieur. Regard d'amour dans l'attente. On sait qu'il est là. Et on vit sa présence. Et on le laisse tout prendre en nous. On met nos mains dans ses mains, notre cœur dans son cœur. On attend avec lui. Attente de la croix. Tellement important, vous voyez, de ne pas faire du don de sagesse un mythe. Il retombe dans un mythe. Nous avons des mythes du paradis terrestre, qui prennent des couleurs différentes. Tellement important, comme on perd un temps énorme. Le don de sagesse a comme fruit la contemplation. Et la contemplation s'incarne dans cette béatitude des pacifiques, des vrais faiseurs de paix. Le faiseur de paix chrétien, il ne fait aucune conciliation, aucun compromis. C'est pour ça que la plupart du temps, il garde le silence. On parle de trop, on doit faire des conciliations. Alors il est dans le silence. La béatitude des pacifiques, elle est dans le silence. Elle est vécue dans le silence. La béatitude des pacifiques, c'est vouloir accomplir la volonté du Père, coûte que coûte, la croix sanglante étant impliqué dans l'accomplissement de la volonté du Père. Tout est achevé. Tout est achevé. Et achevé dans le cri de soif. Achevé dans la blessure du cœur. Achevé dans la mort. Vous voyez, la parenté très grande entre la pauvreté et la sagesse. La mort. Grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Ceci est vrai pour la pauvreté et c'est vrai pour la béatitude et pacifique. Si on ne va pas jusque-là, on n'entre pas dans la contemplation. On a une idée de la contemplation. On a un mythe de la contemplation. Mais on n'a pas la contemplation. La contemplation, c'est quelque chose de ça nous met au-dessus, vous voyez, des contraires. On le vit, et on vit ça dans la lutte. Quand je dis au-dessus des contraires, on est en pleine lutte. Et on est en plein choix. On doit choisir. On doit choisir non pas le plus facile, on doit choisir la volonté du Père dans l'obscurité de la foi. Et c'est cette volonté du Père qui nous écorche vif, qui nous met sur la croix avec Jésus, qui nous met dans le mystère de compassion, qui dépasse tout, qui nous permet d'être vrai, parce qu'on est vrai que là. Ensuite, la béatitude de feu de ceux qui ont faim et soif de la justice, le don de force qui mobilise notre vertu de force. La vertu de force infuse. Et qui ennoblit notre irascible. Notre irascible, vous voyez, c'est bon d'avoir un irascible fort. Le royaume de Dieu est au violent. Il faut de temps en temps se rappeler ça. Violent par rapport à nous-mêmes. Dites pas, je suis un violent, alors acceptez, donne des coups de poing à droite et à gauche. Zut, hein, laissez-moi tranquille. C'est pas ça la force. La force, c'est de pâtir dans le silence. De pâtir dans le silence. Alors de pâtir divinement dans le silence. Avoir soif de la justice divine. Les forts sont silencieux. Notre force est dans le silence. C'est pour ça qu'on réclame le silence. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le silence et qui n'en vit pas, c'est un manque de force. Oui. Et c'est là où ça se manifeste le plus. Celui qui bavarde tout le temps, ne peut pas rencontrer quelqu'un sans lui, sans bavarder. C'est un manque de force. Le fort est silencieux. Parce qu'il vit dans cette volonté d'aimer et d'aller jusqu'au bout. Le don de force, c'est le don qui fait qu'on accepte d'être martyr. Martyr non sanglant. Au cœur d'une communauté. Parce que quand on est martyr non sanglant, au cœur d'une communauté, personne ne sait que vous êtes martyr. Tandis que quand vous êtes martyr sur la grande place, en acceptant d'être brûlé vif, tout le monde sait que vous êtes martyr. Vous savez, accepter d'être pauvre quant aux manifestations, très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Tentation permanente de se manifester. Quelquefois dans les communautés, ça arrive, tu vois. Tout le monde sait que quelqu'un est en colère. C'est pas la force. La force, c'est de se taire. Pater tacebat. C'est dit à propos du vieux Jacob. Ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice de Dieu, c'est pas la justice sociale. Hein, dites-vous bien ça. La justice sociale est un dérivé de la justice de Dieu. Elle existe. Elle existe et on doit la connaître, la justice sociale. Mais elle n'est pas contemplative. Elle n'est pas mystique. La justice sociale, c'est très très bien. C'est du reste quelque chose de très difficile à préciser. Parce que ce n'est ni la justice commutative, ni la justice distributive. C'est quelque chose d'assez particulier. Ni la justice légale. C'est tout ça enveloppé de charité. Et transformé par la charité. C'est ça la justice sociale. La justice de Dieu, elle est mesure de la justice sociale. Elle est au-dessus. Et c'est cette justice-là dont on a soif. Il n'y a pas une béatitude à l'égard de la justice sociale. Dans notre monde d'aujourd'hui, il faut se rappeler ça. La justice est une béatitude. La justice telle que Dieu la voit. Pour tous les hommes. Et c'est vrai que c'est du côté volontaire. Hein. Le don de force vient s'emparer de notre volonté pour nous éviter d'être des stoïciens. Pour nous éviter d'être de ceux qui n'ont une volonté éphémère, le dilettantisme, au-dessus de ces deux, le dilettantisme et le stoïcisme. Il met en nous cette béatitude de force, quelque chose de si grand. Parallèlement à cette béatitude, il y a ce don de force, le don d'intelligence. Toujours, hein. Toujours voir les deux aspects d'intelligence. Bienheureux les cœurs purs. C'est la pureté du cœur. Comme c'est beau que l'intelligence soit la pureté du cœur. C'est merveilleux, ça. Il n'y a que Dieu qui fait ça. La fleur du don d'intelligence fleurit dans le cœur. Et la pureté du cœur, c'est l'esprit de virginité. C'est l'esprit de virginité. Pour garder l'esprit de virginité, il faut être très intelligent. C'est extraordinaire. Il faut être très intelligent. Il faut une intelligence divine qui veut aimer par-dessus tout, Jésus. C'est un lien personnel, la pureté du cœur. Et la virginité du cœur, c'est un lien personnel. Un lien personnel parfaitement lucide, dans une pureté absolue d'intention et de choix. L'intention descend dans le choix. Qui fait qu'on préfère le cœur de Jésus à tout le reste. Et on demeure dans le sein du Père. C'est ça la béatitude des cœurs purs, la pas d'autre demeure, in sino patris. Et le cœur du Père, le sacrement de in sino patris, c'est le cœur blessé de Jésus. Et c'est ce cœur blessé de Jésus que le don d'intelligence nous fait vivre dans la béatitude des cœurs purs. Vous voyez, la béatitude des cœurs purs nous dispose à la contemplation. Le don d'intelligence nous fait dépasser tout le conditionnement humain qui enveloppe toute parole de Dieu. Et nous fait qu'on ne s'arrête jamais au sens purement historique de la parole de Dieu pour atteindre le mystère. C'est le mystère qu'on cherche. Le mystère, c'est Jésus qui se donne à travers la blessure du cœur. C'est pour ça que c'est si grand le don d'intelligence. Alors, je vous rappelle les autres rapidement en un instant. Le don de science, bienheureux ceux qui pleurent. Curieux. C'est pour ça pourtant. La béatitude, le don de piété, le don de conseil. Alors là, ça se touche, c'est très curieux. Bienheureux les miséricordieux. Bienheureux les doux. Bienheureux les deux, c'est le conseil. Bienheureux les miséricordieux, c'est la piété. Je sais qu'on peut dire l'un pour l'autre. Je dis ça tout de suite parce que vous allez me donner un argument thomiste de saint Thomas. Eh bien, saint Thomas a dit les deux. Et personnellement, j'aime mieux mettre la miséricorde avec la piété et le conseil avec la douceur. Parce que la douceur, c'est un mode de la miséricorde. Et le mode de la miséricorde, c'est un don de conseil. Alors, pour aller revoir, si on me repose la question sur le cours de questions et réponses.